On a commencé la semaine passée l'étude de l'Épître aux Galates. Aujourd'hui, on continue ce que nous sommes rendus. On va voir dans cette étude-là, c'est comme si l'apôtre Paul, on a vu que les églises de la Galatie, c'était plusieurs églises que l'apôtre Paul avait fondées, puis il y avait des gens qui étaient à l'intérieur, c'était des Juifs et des païens. Puis, finalement, avec le temps, il y a des Juifs qui ont commencé à imposer à toutes les églises de la Galatie de commencer à retourner à la loi de Moïse pour repratiquer les cérémonies, se faire circoncis, puis tout réintégrer la loi de Moïse en disant que c'est important de pratiquer la loi de Moïse pour être sauvé. Puis là, l'apôtre Paul, il a envoyé une lettre pour pouvoir réajuster le tir, pour réexpliquer que le salut, c'est en Jésus, c'est pas dans la loi de Moïse. L'on continue ce que nous sommes rendus. On est dans Galates au chapitre 1, les versets 3 à 5 qu'on va voir ce soir. On y va tranquillement, s'il n'y a pas de course là, on essaie de ressortir les points qui sont enrichissants pour qu'on puisse comprendre que quand que l'apôtre Paul écrit des choses dans certains versets, on retrouve aussi ces choses-là dans d'autres versets qui complètent l'idée, puis on peut comme gratter un peu plus en profondeur pour apprendre des choses sur la parole de Dieu. Toujours en gardant l'idée que Paul vise de ramener les Galatiens à croire qu'en Jésus seul et non dans la pratique de la religion juive. C'est pour cela que la lettre est écrite. Au verset 3, Paul y ramène l'accent sur les bénédictions que nous avons du Père en Jésus. Dans Galates 1:3, ça dit, il lui donne comme une formule de bénédiction, qu'on voit ça souvent dans la Bible. Il dit dans verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est à commun dans la Bible, de cette formule de bénédiction-là, mais on va le voir dans certains versets tantôt. Mais l'apôtre Paul fait exprès pour peser sur cette idée-là dans sa lettre, dans le but de ramener le focus sur la pierre angulaire. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. La pierre angulaire de tout l'Évangile, la pierre de l'angle, c'est Jésus, Jésus crucifié, puis qui a été ressuscité par Dieu son Père. Ça, c'est le centre de l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut être sauvé à cause du sacrifice de Jésus. C'est pas par la loi de Moïse, c'est pas par la religion chrétienne. C'est par la foi dans l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. Autant que Jésus est la pierre angulaire de l'Évangile, mais dans ce verset-là, c'est en train de nous dire que la grâce et la paix sont aussi en lui. Si je suis sauvé aujourd'hui, c'est à cause du sacrifice de Jésus, mais si j'ai la grâce de Dieu qui m'accompagne et la paix de Dieu dans ma vie, mais c'est aussi à cause de Jésus. Toutes les bénédictions qu'on a dans le Nouveau Testament sont à cause de Jésus et non pas à cause de la loi de Moïse. C'est ça que Dieu veut nous révéler aujourd'hui. La grâce d'être pardonné vient de la mort sur la croix de Jésus. C'est une grâce qu'on a eue d'être pardonné. Une grâce, c'est un cadeau. Le mot grâce veut dire cadeau. On aurait pu écrire le cadeau en Jésus. C'est un cadeau. Ça, quand c'est un cadeau, c'est non mérité. On était tous des pécheurs. On était tous des coupables. On avait tous désobéi. Quand t'es pécheur, le seul salaire que tu méritais par tes mérites, c'est la mort. On méritait la mort, tout simplement. Puis Dieu a décidé de faire que la mort tombe sur Jésus, puis là, il nous donne sa vie. Là, on peut être sauvé, pardonné, puis on est ressuscité. On est maintenant des nés de nouveau à cause de Jésus qui a pris notre place en mourant sur la croix ou sur le bois. L'idée, c'est que ça prenait quelqu'un qui paye pour les coupables. C'est Jésus qui l'a fait, puis c'est ça qui est la bonne nouvelle. La pierre de l'angle, comme je disais, la pierre de l'angle, c'est que tu bâtis ta maison sur une pierre qui supporte toute la structure de ta maison. Ta footing, là, c'est Jésus. Si t'enlèves Jésus, toute la bâtisse s'effondre. Si tu es en Jésus, tu as toutes les bénédictions de Dieu, que ça soit pour être sauvé, que ça soit aussi la grâce et la paix. Parce que là, il dit que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu et de Jésus. Fait que, dans le passage, la grâce de Dieu, on regarde un passage dans Tite, au chapitre 2, le verset 11, il dit, la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est le cadeau de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes, elle a été manifestée. C'est qui a été manifesté? C'est Jésus. C'est Jésus qui est la grâce. C'est grâce à Jésus qu'on a la grâce. Ça vient de lui. Sans son sacrifice, mais on n'aura pas pu être sauvé. Même si on se dit qu'on veut changer, même si on aura demandé pardon, on n'aura pas pu être sauvé. Il y a uniquement qu'en Jésus que tu reçois le pardon. Même si une personne est repentante, si elle n'a pas mis sa foi que Jésus a pris sa place, elle n'est pas sauvée, elle n'est pas pardonnée, parce que le pardon est dans le Messie. Puis la paix, c'est la même chose. Si on peut dire qu'on est en paix, puis là on va voir la paix dans le sens, pas juste être en paix intérieurement, être en paix avec Dieu. Puis être en paix aussi avec le peuple juif, parce qu'il y avait une inimitié. Le peuple juif était le peuple choisi par Dieu, mais toutes les nations haïssent le peuple d'Israël. Mais dans ce passage-là que je vais vous demander de regarder, dans Éphésiens 2, 14, ça dit que Jésus, c'est notre paix. Fait que si on a la paix avec Dieu puis la paix dans le peuple juif, non seulement qu'on peut être en paix avec le peuple juif à cause de Jésus, mais on devient greffé au peuple juif réel, l'Israël de Dieu. Ceux qui n'ont pas la foi parmi le peuple juif sont hantés, le Romain dit, sont enlevés. Puis ceux que nous qui sommes païens, qu'on a mis notre foi en Jésus, on est hantés, on est greffés. On fait partie de l'Israël de Dieu. Mais ça nous a été permis parce que Jésus a tout accompli. Cette paix-là de pouvoir être greffé au cèpe qui est Jésus, c'est grâce à lui qu'on peut être sauvé puis qu'on reçoit toutes les bénédictions. On a été greffés à Jésus comme les Juifs ont été greffés à Jésus. Puis c'est Jésus qui est le pied de la vigne des sauvés, qui est l'Israël de Dieu. C'est pas tout le monde dans le peuple d'Israël qui font partie de l'Israël de Dieu. C'est seulement que ceux qui marchaient dans les traces d'Abraham, qui marchaient dans la foi d'Abraham, eux sont sauvés. C'est pour ça que Jésus a dit à un moment donné, vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes entrer dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors en parlant aux autres Juifs. C'est pas parce qu'ils sont nés descendants qu'ils sont automatiquement l'Israël de Dieu. Il fallait qu'ils marchent dans la foi sur les traces d'Abraham. Puis nous, on marche dans la foi dans les traces d'Abraham. On fait partie du cèpe. On a été greffé au cèpe. Ce cèpe-là, c'est Jésus. Fait que grâce à Jésus, il est notre paix. Ça dit dans Éphésiens 2, 14. Jésus est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, puis a renversé le mur de séparation entre le fait que, je vous disais tantôt, on était des païens, on n'aurait pas pu hériter quoi que ce soit du peuple juif. Puis si on hérite aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a réconciliés, puis on fait partie de la bénédiction qui est en Jésus. Fait que quand c'est là qu'on voit que ça a du sens, quand il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus, c'est qu'en fin de compte, il n'y a pas de grâce et de paix possible en dehors quand Dieu le Père et quand Jésus. Si on a la grâce et la paix aujourd'hui, c'est à cause de Jésus. Amen. Cette formule de bénédiction-là a été utilisée dans plusieurs des lettres, que ce soit des lettres de Paul, on la retrouve 18 fois dans le Nouveau Testament, en disant que la grâce et la paix vous soient données. Ça a été retrouvé 18 fois dans le Nouveau Testament. C'était commun dans ce temps-là, comme nous aujourd'hui, on dit que le Seigneur te bénisse. Mais dans ce temps-là, ça disait qu'ils se disaient entre eux autres que la grâce et la paix, Mais c'est comme si il voulait que ça continue à se répandre en nous, cette grâce-là et cette paix-là. Paul l'a utilisé lui-même plusieurs fois. Il y a dans Philémon, le chapitre 1, le verset 3, ça nous dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Tu vois que Philémon, qui n'était pas un des apôtres directs, mais c'est l'apôtre Paul qui donne cette bénédiction-là, puis c'était pour tous les chrétiens. Ils se souhaitaient d'être dans la grâce puis dans la paix. C'est une façon de bénir les gens, puis aussi d'amener les gens à espérer dans les bénédictions de Dieu. Parce que si je vous dis que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, mais c'est comme s'il ne parle pas juste de la grâce du salut, il parle de aussi les autres grâces que tu peux obtenir en Jésus, les autres bénédictions, des exaucements de prière. Dieu veut prendre soin de toi, il veut t'aider, il veut te guérir, il veut te délivrer, il veut te transformer, il veut t'amener à être comme Jésus, il veut te faire marcher dans la sainteté, il veut te faire marcher dans la justice. Mais pour y arriver, ça prend que Dieu qui t'amène, là. C'est pour ça qu'il souhaitait cela comme si c'était quelque chose qui était à espérer d'en avoir plus. Comme c'est écrit dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est comme si on peut espérer que la grâce soit multipliée dans nos vies. Qui veut plus de la grâce de Dieu dans sa vie? Que Dieu écoute plus, encore plus nos prières, qu'il nous bénisse encore davantage, qu'il nous fasse du bien, qu'il pourvoie de plus en plus, abondamment. C'est ça qui est l'idée. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Puis la paix, on est en paix avec Israël, mais dans l'autre sens de la paix, de vivre dans la paix. Y a-tu de quoi de fatigant de vivre tourmenté par quelque chose parce qu'on est oppressé? Le diable qui nous attaque, puis il nous tente, puis on a des combats, puis on a des problèmes avec des gens ou des problèmes avec le diable qui nous affecte. C'est fatigant. T'es pas en paix. T'es troublé. L'eau paisible, là, elle bouge pas. Mais quand tu brasses l'eau, là, elle vient plein de vagues. C'est de l'eau troublée. Mais des fois, notre vie est comme troublée. Puis de dire à quelqu'un une bénédiction comme que la paix de Dieu te soit multipliée, c'est comme si tu étais en train de... que le Seigneur te bénisse aussi, c'est qu'il nous bénisse, mais qu'il nous donne sa paix, c'est autant une formule de bénédiction pour mettre le nom de Dieu sur les gens, puis la bénédiction de Dieu. Amen. Tous les apôtres croyaient que les bénédictions de Dieu venaient par Jésus. Dans 2 Jean, le chapitre 1, le verset 3, il nous dit dans une de ses lettres que la grâce, la miséricorde, la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Voyez-vous, ils ont toutes la même idée, les apôtres, quand ils bénissaient les gens. La grâce, la paix, la miséricorde, les bénédictions. Fait que on devrait, nous aussi, utiliser ces formules de bénédiction-là pour bénir les autres. Puis, je ne sais pas si vous vous en rappelez, quand Jésus a envoyé ses disciples et aller évangéliser, il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Puis si vous entrez dans une maison, là, il dit, saluez-la. Dites que la paix soit sur cette maison. Puis si se trouve là un enfant de paix, ça va tomber sur lui. Puis s'il n'y en a pas, qu'est-ce qui va arriver? Elle va vous revenir. Fait que quand on bénit les autres, sincèrement, dans le nom de Jésus, on se bénit, on se donne la paix, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, on envoie tout sur les autres, mais on va tous être bénis à cause que Dieu il honore sa parole puis il a dit qu'il était pour le faire. Voyez-vous? Il est là le secret. On veut. Ce qui est le contraire de cela, c'est quand le monde se chicane puis se disent des bêtises. Puis si c'est pas juste aller jusqu'à se maudire, c'est arrivé. pour ça que la Bible a dit de ne pas maudire. Aucunement, jamais qu'on doit avoir ce mot-là dans notre bouche. Il ne peut pas sortir de notre bouche des bénédictions puis des malédictions. Il faut que ça soit juste de la bénédiction. Il dit, quand tu rouvres le robinet chez vous, c'est-tu de l'eau salée puis de l'eau douce qui coule? Non, il y a juste de l'eau douce qui coule. Mais de notre bouche, il doit sortir que des bénédictions pour bénir les autres. Amen. On continue la Galate 1.3 qui dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Puis là, au verset 4, il dit qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés. Ça avec, il y a une très grande vérité dans ce passage-là. Jésus s'est donné lui-même. Ce qu'on va comprendre, on va regarder 2-3 versets là, qui nous parlent de cela, que Jésus n'a pas été forcé, il n'était pas obligé de le faire. C'est volontairement qu'il s'est donné lui-même pour nous sauver. On va y aller en regardant un passage dans Hébreux chapitre 10, les versets 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. On va voir là-dedans dans Hébreux que c'est une parole prophétique qui avait été écrite dans l'Ancien Testament, dans le psaume 40, les versets 6 à 8. Ça nous révèle comment que le Christ s'est offert lui-même, puis là est expliqué un peu plus en détail dans l'Épître aux Hébreux. Ça nous parle de Jésus à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Là, c'est Jésus qui parle à son Père. Il dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour en établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. C'est à cause que Jésus a eu la volonté de prendre la place des coupables qu'on a été sanctifiés. Dans ce passage-là, ça nous dit que les sacrifices qu'on offrait dans l'ancienne alliance pour pardonner les péchés, que ce soit d'offrir un agneau, offrir un taureau, tout ça, Dieu n'a pas agréé ça pour pardonner les péchés. Puis ça dit que le Christ, il est entré dans le monde, puis il a dit à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Là, il dit, je viens pour faire ta volonté. Puis il s'est donné lui-même comme sacrifice. Jésus, il a aboli l'idée de faire les sacrifices de l'ancienne alliance qui sont dans le temple, ce que les Galatiens voulaient retourner. C'est ça qui aussi qui est en parallèle. Les Galatiens voulaient retourner aux cérémonies religieuses juives pour leur purification en pensant que le sacrifice de Jésus, c'était un peu assez. C'est pour ça que Paul y ramène ces idées-là, que Jésus s'est offert lui-même, puis c'est un accomplissement d'une prophétie qui était écrite dans le psaume 40 au verset 6, dans l'Ancien Testament, qui parlait que Jésus viendrait, puis qui déclarerait que les sacrifices, que Dieu agréerait pas cela, puis que lui s'est offert lui-même pour accomplir le sacrifice. Il l'a fait volontairement. De s'offrir. Il dit, je viens pour faire ta volonté. Puis c'est lui qui s'est offert volontairement. Puis là, ça nous dit au verset 10 que c'est à cause qu'il s'est offert volontairement que nous sommes sanctifiés. Si on est pardonné aujourd'hui, si on est purifié, c'est parce qu'il s'est offert volontairement. Il n'était pas obligé. Il aura pu retourner. Il l'a même dit dans le jardin d'Éden à ses disciples, il a dit, « Ne crois-tu pas que je pourrais invoquer mon Père qui me donnera à l'instant 12 légions d'anges? » Il aurait massacré tout le monde, il aurait pu s'en retourner. Quand il était sur la montagne, il a été transfiguré, Il était transformé dans le corps glorifié qu'il aurait pu garder puis s'en aller. Mais il s'est entretenu avec Moïse puis Élie sur la manière qu'il était pour quitter Jérusalem, c'est-à-dire de mourir sur la croix pour payer pour les péchés de l'humanité. Jésus a accepté de rester, il a accepté ses souffrances, puis volontairement il s'est donné, c'est parce qu'il s'est donné qu'on a été sanctifié. C'est par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Un seul sacrifice. Il n'y a plus besoin de répéter ce sacrifice-là. Ce sacrifice unique-là a le pouvoir de pardonner tous les péchés de l'humanité. Si quelqu'un arrive l'autre bord non pardonné, c'est pas parce que le sacrifice n'était pas assez bon. C'est à cause que les gens n'ont pas cru au sacrifice puis aller chercher le pardon. Parce qu'il est offert à tout le monde. Même de son vivant, Jésus nous a confirmé qu'il donnait sa vie de lui-même afin de la reprendre. Il l'a dit lui-même de sa bouche, Jésus, dans Jean au chapitre 10, les versets 17 et 18. Jésus a dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Voyez-vous? Dieu aime quand quelqu'un obéit au plan de Dieu. Jésus, il est venu pour faire la volonté de Dieu. Puis là, il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie. C'était sa mission. Il est venu pour cela. Dieu, le Père, a envoyé son Fils, il a formé un corps, mais Jésus était libre de faire ce qu'il voulait avec, puis il a accepté volontairement de se donner, de donner sa vie afin de la reprendre. Verset 18, il dit, personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Fait que Jésus aurait pu revirer de bord et tout canceller. S'il a accepté d'aller à la croix pour payer pour les péchés, c'est parce qu'il nous aimait. Il voulait nous avoir avec lui. Puis il appelait ses disciples, les apôtres, il les appelait ses amis. Puis il a même dit à ses amis, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Puis on avait un passage la semaine dimanche passé qui disait cela. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça fait partie de l'amour de Dieu. Quand tu veux vraiment avancer pour le Seigneur, c'est de vivre dans l'amour de Dieu pour les autres, le don de soi-même. Dieu le Père l'a fait, il a donné son Fils. Jésus, son Fils, il a donné sa vie. Puis nous, on le reçoit, le cadeau, on donne aussi notre vie pour les frères. Amen. Le plan de Dieu, il était que Jésus-Christ s'offre lui-même afin de nous arracher du siècle présent. Parce qu'on... Là, aujourd'hui, on peut s'en rendre compte un peu plus, mais quand on a donné notre vie au Seigneur, on s'en rendait pas si compte que ça, comment est-ce qu'on est appogné dans les choses du monde. Englouti. On était comme le reste du monde, puis mené par le même esprit qui était dans ce monde. Puis on faisait les mêmes conneries, les mêmes désobéissances que le reste du monde. Puis Jésus, dans le verset 4, dans Galates 1, 4, il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Fait que quand il a donné sa vie, c'était pas juste pour nous pardonner, c'est pour nous arracher de ce monde. On était engloutis. Dominé par le diable, enchaîné par nos péchés, puis par les chaînes que l'ennemi lui-même a, nous a mis, puis on était malheureux, puis toute notre vie n'était qu'un chemin dans le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Tout le monde. Puis quand Jésus est venu puis a payé la dette de nos péchés, ça nous a donné la grâce de pouvoir qui nous prennent, puis qui nous sortent de là, puis nous pardonnent, puis nous purifient, puis là, il nous donne son Saint-Esprit, puis là, il nous renvoie, mais il est avec nous pour vivre dans ce monde d'une manière complètement différente de ce qu'on était auparavant. Voilà pourquoi que l'appel de Dieu au travers de la bouche de l'apôtre Paul disait, dans Actes 2:40, quand Pierre, là, il était sur le balcon, puis il venait d'être baptisé du Saint-Esprit à la Pentecôte, il était sur le balcon, puis il parlait à 3000 personnes, puis à la fin, ses dernières paroles de son sermon, il dit, par plusieurs autres paroles, il les conjurait, puis les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » L'appel d'aller à l'Évangile, c'est un appel de sortir du monde. C'est ça que l'apôtre Pierre a dit à tout le monde. Sauvez-vous de cette génération perverse. Jésus, il est venu pour nous pardonner, puis nous arracher de ce monde pervers. Il veut nous en sortir, mais il faut que la personne veuille s'en sortir. C'est ça la repentance. Quand tu veux vraiment changer de vie, là, c'est là que le sacrifice de Jésus va être efficace pour t'en sortir. Si t'es pas repentant et tu veux rester comme tu étais, t'es pas né de nouveau. Même si tu fréquentes une église, faut que tu veuilles sortir de ce monde corrompu et pervers. Les premiers chrétiens ont été arrachés du présent siècle mauvais afin de briller dans ce monde. Puis pas les premiers chrétiens, les chrétiens. On est arraché du siècle mauvais, comme je disais, là, le Seigneur nous renvoie dedans, mais pour qu'on brille, parce qu'on est différent à cette heure. On est des êtres changés, transformés, puis le Christ brille à travers nous. Dans Philippiens 2,15, c'est ce que ça nous dit. Il dit, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Avant, on n'était pas brillés, on était des lampes éteintes. Puis quand tu viens à Jésus, il te pardonne, puis il t'allume. Il te ressuscite, tu es en vie, la lumière de Dieu est en toi. Maintenant, tu peux marcher d'une manière pure, irrépréhensible. Comme je disais tantôt, marcher dans sainteté, marcher dans la justice, être différent. Le monde aujourd'hui trouve ça normal. Tu vois quelque chose qui traîne, tu le ramasses, tu le voles. Ça, c'est le monde normal. Mais quand tu es chrétien, tu veux plus voler. Tu veux donner l'exemple. Tu trouves de quoi, puis tu fais tout pour essayer de retrouver le propriétaire, pour y remettre, puis tu touches pas à ses billets qu'il y a dans son portefeuille. Voyez-vous? Il y a une différence quand tu es chrétien. Du moins, il est supposé en avoir une. À moins qu'on ait le cœur corrompu et qu'on soit encore dans les perversités. Mais il veut nous sortir de cela, puis il veut qu'on brille dans ce monde comme des flambeaux. Dieu s'est choisi en Jésus-Christ les pires individus de cette société pour confondre les sages. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 27 et 28. Faut pas penser que Dieu a choisi les plus sages et les plus intelligents, puis les plus beaux, puis les plus fins. On était pas cela, on était les pires. Ça nous le dit. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Il y en a des gens qui se pensent, puis ils se pensent, pas ceux-là que Dieu va prendre. Il vient pas chercher les justes, il vient chercher les pécheurs, les malades. Puis lui, il a une fierté, le Seigneur, il a une gloire, lui, quand il nous redresse, puis qu'il nous remodèle, puis qu'il là, il nous fait briller, puis qu'on donne l'exemple dans un plus haut niveau de sainteté et de justice que la plupart des gens sages de ce monde. Il veut nous amener à être comme cela, afin qu'on brille. Parce que si on fait les mêmes choses qu'avant, puis qu'on fait les mêmes choses pour être comme les autres, on ne brillera pas du tout. Mais il veut nous amener dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est ça qui est avisé, à être comme Jésus. Toute la gloire revient à Dieu. On n'a pas de mérite, parce que quand on est venu à Jésus, il a fallu qu'on l'admette. Je suis pécheur, puis je suis pas capable de me sauver par moi-même. Puis si on a quelque chose de Dieu, c'est une grâce. On le sait que c'est un cadeau qu'il nous a fait de pouvoir être pardonné, puis d'avoir tout l'équipement qu'il nous est donné, puis le changement qui est opéré. Juste avant le changement, c'est qu'il nous a donné la possibilité de pouvoir changer. Parce qu'avant, on ne pouvait pas rien recevoir de Dieu. On était privés de la gloire de Dieu. Mais en Jésus, on a accès à cette grâce, puis on la reçoit. Puis la grâce est multipliée de jour en jour. Que la grâce soit multipliée, c'est qu'on profite de toutes ses bénédictions, ses promesses, sa bonté. Parce que c'est par peu bonté que Dieu veut faire les changements dans nos vies. C'est pour ça qu'au bout de la ligne, on le reconnaît puis on le dit. C'est ça qu'il dit au verset 5. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Parce que tout vient de Dieu puis de son Fils. Il y a un dernier verset, je vais vous lire. Qui peut s'opposer à ce que Dieu reçoive toute la gloire dans cette vie? Personne. On le reconnaît que ça vient de lui. Dans Apocalypse 4:11, ça dit à Dieu, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Toutes choses, même notre nouvelle vie en Jésus, c'est Dieu qui l'a créée. On n'a aucun mérite. » C'est pour ça que quand il est en train de parler aux Galates, Paul, il a pesé sur le fait que tout vient du Père, puis en Jésus, tu n'as pas besoin de retourner à la loi de Moïse. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a tout à gagner à rester accroché au Seigneur, puis profiter de ses bénédictions, puis de ne pas avoir peur d'en parler, parce qu'on le reconnaît que tout vient de lui, puis toute gloire doit lui revenir. Amen.